Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Et ce matin, nous attendons toutes vos questions sur les médicaments antidouleurs en partenariat avec l'émission Enquête de Santé sur France 5. Des antidouleurs que l'on retrouve facilement dans nos armoires à pharmacie. Nous en prenons quand nous avons mal, mais ces antidouleurs peuvent devenir des remèdes pires que le mal. Le paracétamol, par exemple, qui peut gravement nuire à notre organisme si l'on n'y prend pas garde. Ou encore les opioïdes qui peuvent entraîner une forte dépendance. Près de 12 millions de Français en consomment chaque année. Nous verrons si les laboratoires pharmaceutiques ont sous-estimé les risques d'addiction. Va-t-on assister à une grave crise sanitaire similaire à celle que vit les États-Unis? Le législateur doit-il encore plus durcir l'accès à certains antidouleurs? Nous reviendrons également ce matin sur les mécanismes de la douleur. Vous pouvez poser toutes vos questions et témoigner au 01 45 24 7000 sur l'application France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier en duplex de France Bleu à Toulouse. Quel est le menu de votre chronique vers 11h moins le quart?
Moi, je voudrais vous parler d'une histoire optimiste, d'une patiente qui a réussi à se sortir de son addiction.
Et vous répondrez également à la question Covid du jour?
Oui, tout à fait. On va parler de cette étude parue dans le JAMA à propos de la contagiosité des enfants.
À tout à l'heure. Et c'est le retour de notre ami Thierry Lhermitte. Bonjour Thierry.
Bonjour Ali.
Ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale. Tous les mois, vous visitez un laboratoire, coup de projecteur sur des recherches prometteuses sur la maladie d'Alzheimer en fin d'émission.
Absolument. Je suis allé au laboratoire de Jean-Philippe Desly au CEA à Fontenay-aux-Roses. Et il fabrique des mini-cerveaux.
Eh bien, nous verrons ça tout à l'heure.
Ça vise personne.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Alexandra Combes.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez réalisé le documentaire Antidouleur, potion ou poison dans le cadre de l'émission Enquête de santé diffusée demain soir à 20h50 sur France 5. Bonjour professeur François Chaste.
Bonjour.
Vous êtes président honoraire de l'Académie nationale de pharmacie, expert régulier dans cette émission. Vous avez dirigé les services de pharmacie de plusieurs hôpitaux à Paris et vous avez publié un très pédagogique ouvrage Les médicaments sans question chez Taillandier. Bonjour docteur Patrick Gignès.
Bonjour Ali, bonjour messieurs, mesdames.
Vous êtes médecin anesthésiste et vous dirigez le centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Montpellier et vous êtes d'ailleurs en duplex des studios de France Bleu à Montpellier. Bonjour docteur Carole Serini.
Bonjour.
Vous êtes neurologue à Paris et vous avez publié aux éditions du CERF Douleur chronique et opiacée. Alors on commence avec vous Patrick Gignès. Avant de s'intéresser aux médicaments antidouleurs, j'aimerais que vous nous rappeliez les grands mécanismes de la douleur.
Oui, bonne question. C'est vrai que la douleur, elle est complexe à décrire et les gens ne la perçoivent pas toute la complexité. On pourrait dire qu'il y a trois causes, trois mécanismes essentiels qui génèrent de la douleur. La première, je vais être très simple, c'est la douleur de la chair, c'est-à-dire toute structure du corps humain abîmée déclenche un processus d'alerte. Ça, c'est la douleur de la chair. Mais pour arriver à une souffrance que l'expérience de la douleur nous permet de comprendre, il faut que cette information monte à la tête et ouvre des logiciels sur le plan des émotions. Et c'est la deuxième composante de la douleur qui va faire le côté très désagréable, horrible, d'enfer. Et c'est ce logiciel-là qui va donner le caractère très désagréable après l'alerte par la chair abîmée. La troisième composante, c'est ce qu'on analyse dans des situations de danger, d'agression du corps. Et donc, il y a aussi une vision sociologique de notre propre douleur, qui dépend de la culture, du lieu où on vit, de notre histoire personnelle. C'est les trois composantes de la souffrance physique, psychologique et sociale qui font la totalité de l'expérience de la douleur.
Docteur Gignès, ce sont les mêmes mécanismes si je me coince le doigt dans un tiroir ou si je ressens une douleur chronique à cause d'une migraine récurrente, par exemple.
Alors voilà, là vous pointez les deux grands chapitres de la douleur qui sont tout à fait différents. La douleur aiguë, qui va alerter d'un danger, donc nous protéger de ce danger, faire l'intégrité du corps. Et la douleur chronique, quand elle dure plus de 3 mois, une douleur, même après un doigt coincé dans une porte, la douleur peut rester, mémorisée. Et ça, c'est à cause d'un mécanisme qui se passe dans le système nerveux, depuis le premier neurone qui a été altéré jusqu'à l'intégration cérébrale de cette information. Et là, il y a une mémoire qui peut s'imprégner et qui peut, comme le code secret de la carte bleue, rester des années présente et sans facilité de contrôle. Et c'est en fait la dernière information qu'il faut donner sur les mécanismes de la douleur, c'est qu'on a tous, de façon autonome et automatique, un système automatique antidouleur. Et là, on n'est pas tous égaux devant l'efficacité de ce système, surtout quand la douleur devient chronique.
Docteur Carole Serini, que nous raconte la douleur au fond ?
La douleur devrait, normalement, comme l'a expliqué le professeur Ginette, nous alerter sur quelque chose qui ne va pas et donc nous conduire à éviter l'agression ou à la réparer. Mais ce qui se passe dans la pratique, c'est que beaucoup de douleurs n'ont pas de sens, n'ont pas ce sens-là. Elles persistent alors qu'il n'y a pas de danger dans le corps, et elles sont en quelque sorte inutiles, si on peut dire. Ce sont des parasites. Elles ont envahi notre cerveau. C'est ce qui se passe dans la douleur chronique, qui est une espèce de bug, comme dans un bug informatique, c'est-à-dire que le cerveau reste fixé sur les composantes émotionnelles de la douleur et les composantes sociales, d'ailleurs, qui aggravent les choses parce qu'on se restreint, on s'empêche de vivre à cause de la douleur, et on s'enferme dans une espèce d'enfer qui n'a plus de signification utile pour le corps humain.
Quel est le circuit de la douleur d'un point de vue neurologique quand je me coince le doigt dans un tiroir ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, ce qui se passe, c'est que immédiatement, ça déclenche une excitation dans les nerfs sensitifs, c'est-à-dire que les nerfs qui sont chargés justement de transmettre l'information au cerveau. Puis, cette information va être retransmise jusqu'au cerveau par différents relais. C'est-à-dire qu'elle va s'arrêter au niveau de la moelle épinière, après elle va s'arrêter dans différentes structures cérébrales. Elle va alerter les structures de l'éveil, par exemple. Quand on a mal, on devient hypervigilant. C'est-à-dire qu'on est là, ça nous réveille, effectivement, et puis on ne peut plus penser à autre chose. C'est-à-dire qu'elle va captiver toutes nos capacités d'attention, de concentration, et puis les composantes émotionnelles qui font qu'on va ressentir ça comme quelque chose de catastrophique. Si... N'exagérons pas, il y a des différents types de douleurs, mais globalement, c'est quand même l'idée, c'est que le cerveau considère que la douleur est une catastrophe, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, et c'est pour cela qu'on est si vulnérable à l'addiction aux médicaments, parce qu'on fait tout ce qu'il faut pour éviter la douleur.
Docteur Patrick Gignès, la douleur que l'on ressent dépend donc du degré d'attention qu'on lui porte, de son humeur et également de son état de fatigue ?
Oui, je crois que tout le cerveau est mis en jeu pour bien ou moins bien gérer cette information douloureuse, alors qu'elle soit aiguë. Il y a des gens qui sont déjà capacité de tomber dans les pommes rien qu'en penser qu'ils vont aller chez le dentiste avant que la douleur commence. Donc elle est bien déjà anticipée. On a déjà en fait des logiciels qui ont préparé à la perception des douleurs aiguës ou chroniques. Et ça c'est très compliqué parce qu'en fait ça explique la variabilité, la subjectivité, l'individualisation de ce qu'on vit avec une même expérience douloureuse. Les sujets peuvent avoir des réactions immédiates totalement différentes, en intensité et en qualité de perception. Et quand la douleur est chronique, c'est encore pire, parce que presque, on peut penser que les logiciels du cerveau ont déjà une pré-analyse de la situation. Autrement dit, un lombalgique, par exemple, qui était au travail et qui a un petit chef qui le harcèle, peut-être ce harcèlement a déjà préparé un doublement ou un triplement de l'information douloureuse du dos s'il a fait un faux mouvement ou un lumbago. Donc, vous voyez combien il y a des interactions très complexes.
Docteur Carole Serini, comment bascule-t-on dans la douleur chronique ? Pourquoi une douleur devient-elle chronique alors que l'organe qui fait mal ne présente plus rien de grave ou rien d'anormal ?
Ça, on aimerait bien le savoir. Ouais. Malheureusement, il y a encore bien des mystères dans ce qui déclenche le passage de la douleur aiguë à la douleur chronique. On parlait des lumbagos, là, et 80% des personnes qui ont des douleurs de la colonne lombaire aiguë vont guérir dans les 3 semaines, pratiquement sans séquelles. Peut-être que ça reviendra plus tard, mais en tout cas, ils vont guérir. Et puis les autres ne vont pas guérir. Et on ne sait pas toujours pourquoi. Et ça peut être la même personne. C'est-à-dire que vous allez faire un lumbago qui va très très bien s'arranger en 3 semaines. Et puis 5 ans après, vous allez en faire un autre qui va, lui, ne pas s'arranger. Pour plein de raisons. Des raisons à la fois qui tiennent à sa vie et peut-être... Peut-être t'as pas de chance aussi.
Professeur François Chaste, prenons un exemple concret. Je ressens un léger mal de tête, je prends une aspirine. Par quel mécanisme l'aspirine va-t-elle calmer ce léger mal de tête ? Alors, le mécanisme d'action de l'aspirine est connu depuis une cinquantaine d'années. Il met en jeu ce qu'on appelle des médiateurs de l'inflammation, les prostaglandines, qui sont des substances que l'on a dans la quasi-totalité de nos cellules, et qui sont des messages qui expliquent à l'organisme qu'il se passe quelque chose d'anormal. Et l'aspirine va réduire la production de ces médiateurs, de ces prostaglandines, et en réduisant leur production au niveau cellulaire, eh bien le message douloureux va s'estomper, s'amoindrir et disparaître. Et donc on a pour un certain nombre d'étapes de constitutives du message douloureux, on a des réponses thérapeutiques, des réponses pharmacologiques qui permettent aux médecins d'adapter le bon médicament à la bonne situation, douleur aiguë, douleur chronique, douleur sociale, comme l'expliquait tout à l'heure Patrick Gignès. Et on a à notre disposition aujourd'hui un éventail de médicaments antidouleurs qui permet globalement de s'en sortir. Mais, bien sûr, il y a des revers à ces médailles qui brillent parfois trop.
C'est ce que montre le documentaire diffusé demain soir sur France 5.
Omniprésent dans nos armoires à pharmacie, le paracétamol est l'antidouleur le plus vendu en France. Mais il suffit de quelques grammes de trop pour mettre sa vie en danger.
En tout, j'ai pris 5 cachets de paracétamol. Jamais j'imaginais que ça aurait pu... C'était mortel, quoi.
Depuis janvier, les médicaments contenant du paracétamol ne sont plus en libre accès dans les pharmacies pour limiter les risques d'accident.
Féralgan 1000, Doliprane 1000 ou le Dafalgan 1000, ces trois présentations-là contiennent exactement la même quantité de paracétamol. Le risque, effectivement, c'est qu'on atteigne très vite un surdosage.
Quand le paracétamol ne suffit plus, il existe des médicaments beaucoup plus puissants. Les opioïdes, dérivés de l'opium, est consommé par 12 millions de Français chaque année. Mais ces antidouleurs très addictifs font de certains patients des toxicomanes sur ordonnance. La France va-t-elle tomber dans le piège des opioïdes? Combien de vies brisées à cause de ces médicaments? Les antidouleurs seraient-ils devenus plus dangereux qu'utiles?
Extrait du documentaire « Antidouleur, potion ou poison » diffusé demain soir sur France 5. Alexandra Combes, votre documentaire débute de façon assez glaçante avec Jean-Luc qui prend banalement du paracétamol suite à une douleur.
Oui, en fait, Jean-Luc, il avait des douleurs extrêmement fortes dans les jambes et il a pris du paracétamol, 5 grammes de paracétamol. En quelques heures, voilà, voyant que ça ne faisait pas d'effet. Et c'est d'ailleurs un des pièges, en fait, du paracétamol, c'est qu'il a une toxicité potentielle pour le foie, mais peu de gens, en fait, connaissent cette toxicité. Il y avait une étude du Centre de pharmacovigilance de Nancy qui avait mis en évidence que seuls 14% des personnes interrogées connaissaient cette toxicité potentielle pour le foie.
Professeur François Chaste, le paracétamol a été commercialisé en 1953. Il est d'emblée présenté comme un concurrent de l'aspirine. C'est à la fois un antidouleur, un antifièvre et un anti-inflammatoire à petite dose.
Faiblement.
Et il ne fait pas saigner, contrairement à l'aspirine.
Le paracétamol est un excellent médicament. Mais vous savez, les couteaux de cuisine sont d'excellents outils pour faire la cuisine, éplucher les légumes, mais on peut se couper. On peut même observer des assassinats avec un couteau de cuisine. Et donc, il faut, comme chaque outil précieux, avoir en tête que le bon usage est une règle impérative. Le bon usage du paracétamol, c'est toujours éviter plus de 4 grammes par jour, et non pas 4 grammes ou 5 grammes en quelques heures, et toujours éviter une imprégnation alcoolique qui renforce la toxicité de ce médicament.
Alexandra Combes.
Oui, il y a aussi des personnes, je crois, qui ne supportent pas la douleur et qui, par prévention, en prennent aussi un petit peu comme des bonbons, ce qui fait qu'on arrive à des surdosages aussi assez rapidement.
Effectivement, le paracétamol est très tentant parce qu'il est très bien toléré, d'une manière générale, et sa toxicité hépatique, brutale, violente, parfois mortelle,
apparaît de manière très insidieuse. C'est-à-dire que les patients n'ont pas d'alerte sur ce mécanisme d'action toxique et on les retrouve souvent dans le coma, alors qu'ils n'imaginaient pas être mis en danger par cette automédication.
Professeur Chasse, doit-on, de votre point de vue, se détourner du paracétamol ?
Non.
Et est-ce qu'il reste pour vous l'antalgique de référence,
oui,
qu'il faut privilégier par
absolument
rapport aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ? Non stéroïdiens,
écoutez,
signifie qu'ils n'appartiennent pas à la famille de la cortisone.
Je le répète, comme tout médicament, dans le cadre d'un bon usage, raisonné et raisonnable, le paracétamol n'est pas dangereux. On peut donc l'utiliser de manière raisonnée à une dose convenable, en général 3 grammes chez l'adulte, et ça peut durer des semaines à ce rythme-là. Sauf si l'adulte est déjà dans une situation d'insuffisance hépatique, de cirrhose du foie ou de consommation régulière d'alcool.
Mais Alexandre Racon, vous montrez bien dans votre documentaire que le paracétamol a presque perdu son statut de médicament.
Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est presque devenu un produit de consommation courante qui, dans l'année, n'a pas consommé du paracétamol. Et c'est aussi un médicament qu'on retrouve partout, chez soi, dans son bureau, etc. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a du paracétamol caché. Le paracétamol, c'est quand même présent dans plus de 200 médicaments. Et on convient bien qu'effectivement, on peut arriver aussi à des cas de surdosage sans s'en rendre compte, en fait.
Dans des préparations comme le Fervex, Actifed, Dafalgan, etc. Quelle décision a prise l'agence du médicament concernant le paracétamol ?
Dorénavant, le paracétamol n'est plus en libre accès. Il a été mis, en fait, derrière les officines pour que les pharmaciens puissent informer sur le risque de surdosage.
Oh, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas besoin d'ordonnance pour acheter du paracétamol en pharmacie, mais il y a une médiation dans l'acte d'achat par le pharmacien. Et cette médiation, elle devrait faire l'objet d'une information, de telle sorte que le patient qui va chercher ses 8 grammes de paracétamol chez le pharmacien, c'est des boîtes en général de 8 grammes, hein, on ne peut pas dispenser des boîtes de plus de 8 grammes, 16 comprimés ou 16 gélules à 500 mg, eh bien le pharmacien doit informer des risques. Ça n'est malheureusement pas toujours le cas. Je note que dans la plupart des pays d'Europe, on peut acheter jusqu'à 100 comprimés, 100 gélules de paracétamol. On va au Royaume-Uni, c'est quasiment open bar pour le paracétamol.
Quelle est votre recommandation concernant les anti-inflammatoires comme l'ibuprofène, l'acide niflumique, encore le diclofénac que l'on retrouve dans le Voltaren ?
Alors, là, c'est une autre classe de médicaments. C'est une classe de médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pour lesquels, là encore, à une dose raisonnable et raisonnée, il n'y a pas de danger particulier. Mais en cas d'usage prolongé, plus de 15 jours à 3 semaines, avec des doses supérieures aux doses habituellement bien tolérées, par exemple pour l'ibuprofène, pas plus de 1200 mg par jour, 1 gramme de sang, on a une assez bonne tolérance de ces médicaments, à condition de ne pas être insuffisant rénal, de ne pas être insuffisant cardiaque, de ne pas être insuffisant hépatique. Ce qui veut dire, en pratique, que ce sont des médicaments habituellement bien tolérés, pour lesquels il faut néanmoins être très prudent chez le patient âgé, et d'une manière générale, être très prudent chez la femme enceinte. Parce que ce sont des médicaments qui, durant les derniers 3 mois de la grossesse, peuvent avoir des conséquences délétères sur le nouveau-né. Il faut être donc très prudent chez la femme enceinte.
Baptiste Beaulieu, vos patients sont-ils suffisamment informés des dangers de certaines préparations ?
Alors, les patients, non, mais vous savez, les étudiants en médecine, non plus. Hein. Moi, je l'ai appris un petit peu sur le tard, à quel point ça pouvait être très rapide comme ça de développer une addiction, et aussi à quel point il fallait être très vigilant pour expliquer tout le temps aux patientes et aux patients que c'est la dose qui fait le poison et que quand on dit 4 grammes de paracétamol, c'est 4 grammes répartis au cours d'une seule journée. Hein. Mmh. Si vous prenez 4 grammes d'un seul coup, le foie va pas aimer du tout. Hein.
Vous parliez d'addiction, on reviendra tout à l'heure à l'addiction aux opioïdes et je crois savoir que vous avez été vous-même victime d'une dépendance.
Oui, tout à fait.
Hein, on y reviendra tout à l'heure. Nous attendons toutes vos questions et témoignages sur les antidouleurs au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Manon Cancé. À la technique ce matin, Kevin Pelot et Mathias Saléon. À la réalisation, Stéphanie Texier. La programmation musicale est signée Muriel Pérez. Et si on écoutait un souvenir d'adolescence de Thierry Lhermitte, Diana Ross et les Supremes, pour bien commencer la semaine. Diana Ross et les Supremes sur France Inter.
Appelez-moi docteur. Répondez-moi oui docteur ou non docteur.
Grand bien vous fasse.
Oui docteur.
Sur France Inter.
10h30 et nous attendons toutes vos questions sur les médicaments antidouleurs au 01 45 24 7000.
À l'est des États-Unis, l'État de Virginie occidentale a été l'un des plus touchés par cette crise des opioïdes et a dû faire face ces dernières années à une épidémie d'overdose.
Hello?
Hello, how can I help you?
I think it's getting overdosed.
How old is he and what kind of drugs did he take, hold on.
Ces appels au secours, ces cris de détresse sont devenus le quotidien des services d'urgence de la petite ville de Clarksburg.
I need an ambulance right away, my son just overdosed. Please hurry, he's unconscious.
Okay, I'll stay in the phone with me, okay?
En quelques années, Lou Hortensio a vu sa ville dévastée par l'addiction aux antidouleurs. Cet ancien médecin a perdu de nombreux patients, mais aussi des voisins et des amis proches.
C'est sûr qu'on perd au moins 2 ou 3 personnes par semaine d'overdose dans ce comté.
Par semaine ?
Oui, par semaine.
Alexandra Combe, vous avez réalisé ce documentaire Antidouleur, potion ou poison. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous avez enquêté sur les opioïdes ?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est le caractère rassurant en fait de l'opioïde qui est prescrit par un médecin en qui on a confiance. On va le chercher chez son pharmacien qui est dans son quartier. Et le problème aussi, c'est que souvent le risque addictif n'est pas présenté au patient. Du coup, comment on peut se rendre compte qu'on est dans une situation d'addiction si au préalable, on n'a pas été informé de ce risque?
Et les États-Unis vivent donc une crise sanitaire majeure avec environ, en tout cas à ce jour, 400 000 morts.
Oui, en plus, visiblement, on aurait sous-estimé le nombre de décès de 100 000. Aux États-Unis, c'est une crise sanitaire sans précédent qui a été orchestrée par des laboratoires pharmaceutiques, peu scrupuleux qui ont fait des campagnes publicitaires pour minimiser le risque addictif, qui ont aussi envoyé des visiteurs médicaux dans des zones qui étaient touchées par le chômage et la pauvreté. Voilà, c'est une crise sanitaire sans précédent qui, en plus, s'est empirée, la situation s'est aggravée avec la crise du Covid-19.
Docteur Carole Serini, je rappelle que vous êtes neurologue. Qu'est-ce qu'un opioïde ?
Un opioïde, c'est un médicament qui exerce sur le système nerveux les mêmes effets que l'opium, c'est-à-dire qui stimule les mêmes zones, qui sont aussi les zones d'ailleurs qui correspondent à nos défenses naturelles contre la douleur, les endorphines. Donc tous les médicaments qui ont cet effet-là sont des opioïdes. Il y en a qui dérivent de l'opium, naturellement, comme la codéine, par exemple. Il y en a qui sont complètement artificiels, comme le tramadol, par exemple, ou le fentanyl. Mais ça n'empêche pas. On peut aussi dire qu'il y en a qui sont très forts, la morphine, le fentanyl, et d'autres qui sont faibles, comme la codéine ou le tramadol. Donc, il y a plusieurs types d'opioïdes, mais globalement, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous ces médicaments-là ont le même mode d'action. Donc, il y a quand même un danger, même pour les médicaments les moins inquiétants.
Professeur François Chaste.
L'histoire des opioïdes commence en 1817. C'est la découverte de la morphine en Allemagne. Et la clôture du 19e siècle, c'est 1898, les laboratoires Bayer qui fabriquent l'héroïne. Et l'héroïne est présentée comme un médicament qui va pouvoir lutter contre l'addiction à la morphine. C'est évidemment totalement faux. Et c'est d'ailleurs la première interaction des Big Pharma avec ces addictions. Et il faut attendre 1916 pour qu'en France, on ait une législation qui met un coup d'arrêt à l'utilisation de ces opiacés. Pourquoi 1916 ? Bataille de la Somme, bataille de Verdun, des centaines de milliers de blessés qui souffrent le martyr, et on utilise, bien sûr, les opioïdes. Et il va y avoir de très nombreux toxicomanes. Et pendant 60 ans, les morphiniques ne seront plus utilisés par le monde médical, dans le monde et en particulier en France. Et il faut, dans les années 70, ce qu'on a appelé le mouvement des hospices pour réhabiliter l'utilisation des opiacés, notamment en cancérologie, plus généralement dans les douleurs chroniques, pour réhabiliter progressivement leur utilisation. Et cette réhabilitation, au fil des années, des décennies, a constitué une pente glissante vers laquelle les États-Unis se retrouvent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est parti d'un déficit d'usage à un excès qui conduisent les États-Unis aujourd'hui à quelque chose comme 70 000 morts par an en raison de cette crise des opioïdes.
Question de Thierry Lhermitte de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Alors moi je voudrais savoir si la doctrine a changé. Moi il y a 15 ans, j'étais douleur chronique de lombaire suite hernie discale. Ma vie était un cauchemar, je vais voir un médecin de la douleur qui me prescrit un opioïde, l'oxynorme, qui m'a changé la vie. C'est-à-dire, je pouvais pas tourner. Hein. Je entre assis et debout, il me fallait 30 secondes. Bon, et elle m'a dit, prenez-le sans aucun problème. Si vous avez peur d'avoir mal, prenez-le avant. Si vous avez mal, prenez-le, machin. Il n'y a pas de dépendance à ça. Moi, j'ai jamais été dépendant d'aucune manière. Ça m'a changé la vie et puis tout va bien. Mais à l'époque, voilà ce qu'on m'a dit. Alors, est-ce que la doctrine avait changé là-dessus ?
Docteur Patrick Gignès, médecin anesthésiste.
Oui, la doctrine a changé. D'accord. On partait d'une époque où la morphine était très très mal vue et donc on avait des gens entiers qui souffraient, des populations entières qui souffraient en post-opératoire dans les douleurs chroniques. Ouais. Et c'était quand même progrès d'avoir fait depuis 30 ans monter notre pays à un niveau normal de la prise en charge de la douleur cancéreuse, post-opératoire et chronique. Mais bien sûr, ce succès, entre guillemets, parce que quand même c'est ça le problème, entraîne qu'on a une partie des gens, alors pas comme Thierry Lhermitte, qui par leur caractère, leur personnalité, leur histoire de vie, risque de basculer dans cet excès. Alors, c'est pas la toxicomanie comme, j'allais dire, dans certains quartiers où il y a de la drogue et une décompensation complète psychosociale. Non, c'est des sujets normaux, mais qui peuvent, par certaines faiblesses, à des moments de leur vie, basculer. Alors, l'Amérique a fait cette erreur fondamentale de penser que la douleur n'était que physique. Alors qu'il y a en Amérique une énorme quantité de souffrance psychologique, la société est très dure, et souffrance sociale. Et ils ont cru que toute douleur était liée à un excès de nociception, comme on dit, c'est-à-dire une altération du corps au niveau du dos, par exemple, ou de la tête. Et ça a conduit à ces excès. La France, malgré tout, n'a jamais basculé dans ce mauvais diagnostic de la douleur, qui enlève le côté psychologique et social. Donc, les règles de droit, les règles de prescription ont été bonnes. Maintenant, en revanche, il faut avertir sur ce petite frange de population qui a basculé, c'est vrai, et qui risque des décès. Mais j'allais dire, c'est comme pour le diabète et l'insuline. Je pense qu'il y a beaucoup de décès sur le mauvais usage de l'insuline. On n'en parle pas parce que la morphine est beaucoup plus chargée sur le plan émotion, représentation.
Vous êtes d'accord avec ça, docteur Carole Sereni?
Oui, bien sûr. Globalement, ce qu'il y a, c'est que il y a aussi, il faut reconnaître aussi le fait qu'il y a peu de douleurs chroniques qui sont améliorées au long cours par les opiacés. C'est vraiment une exception exceptionnelle, réellement, et il y a énormément d'articles scientifiques qui démontrent le contraire, c'est-à-dire que dans la douleur chronique, après un certain temps, les opiacés n'apportent pas réellement une amélioration de la qualité de vie et du handicap. Ce sont des médicaments qui, disons, dans certains cas, peuvent être efficaces au long cours, mais le plus souvent ne le sont pas.
Alexandra Combe.
Non, pour revenir à la situation en France, je crois qu'il est important quand même de dire que il y a des signaux alarmants qui montrent qu'il faut absolument prendre en compte. Et l'idée, c'est de dire qu'il faut rester vigilant et éviter le piège américain. Il y a quand même une augmentation des hospitalisations qui sont liés à la prise d'antalgiques, qui ont été multipliés par 2 en 10 ans, et une augmentation aussi du nombre de décès multipliés par 3 en 10 ans.
Professeur François Chaste.
Oui, je partage ce dernier point de vue, parce que il y a autant de souffrances en Europe et en France qu'il y en a aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait des spécificités de pays qui souffrent et de pays qui souffriraient moins. Le bonheur de vivre peut-être dans certaines zones qui échappent à tout, mais globalement, on souffre de la même manière en France. Et ce qu'a montré un récent rapport de l'Agence du médicament, à mon avis excessivement rassurant, c'est-à-dire de mon point de vue rassurant par excès, est un rapport qui montre quand même une augmentation sensible de la consommation, donc de la prescription de ces médicaments opioïdes. Et moi, j'ai fait une petite enquête personnelle auprès des chiffres de l'assurance maladie qui montre que en 20 ans, on a une multiplication considérable de la consommation d'opioïdes en France. On n'est peut-être pas encore au stade des États-Unis, en particulier de ces États comme le New Hampshire ou la Virginie, mais on a des signaux d'alarme qui s'allument, et je pense qu'il est aujourd'hui indispensable, au niveau des autorités de santé, de prendre conscience du danger des années 2020 à 2030.
Un auditeur nous écrit: suite à une intervention chirurgicale, on m'a prescrit du tramadol, mais arrivé à la maison, mon pharmacien et les infirmiers qui venaient faire les soins m'ont fortement déconseillé d'en prendre en me faisant part des phénomènes d'accoutumance. Vous, Baptiste Beaulieu, vous avez pris du tramadol suite à une hospitalisation, c'est ça?
Exactement. Durant mes études à l'hôpital, j'ai contracté, vous savez, un staphylocoque doré qui a occasionné plusieurs abcès, qui étaient des abcès rapprochés, c'est-à-dire que j'ai été opéré 3-4 fois en l'espace de 4 mois, ce qui veut dire que j'ai été pratiquement 3 mois sous tramadol. Et quand ça s'est un peu apaisé et que j'ai décidé d'arrêter le médicament, j'ai arrêté comme ça du jour au lendemain en me disant que j'y aurais pas de problème. Et ça a été une erreur monstrueuse. Je me suis réveillé en pleine nuit. J'étais en sueur, dans un état de tristesse et de détresse morale terrible. Et j'avais l'impression, enfin c'est mon corps qui me disait tout va s'arranger si tu reprends un tramadol et ça va s'apaiser. Et j'ai dû pendant une petite semaine prendre des traitements qui m'ont m'ont aidé à me débarrasser de cette addiction, et ça a été vraiment une révélation pour moi en tant qu'étudiant en médecine, parce que je fais très attention maintenant aussi quand je prescris ces médicaments-là.
Alors, parmi les opioïdes les plus dangereux, on retrouve donc le fentanyl, 100 fois plus puissant que la morphine. Dans le documentaire, un témoin dit en substance, peu importe comment je suis soulagé, je me fiche des effets, Patrick Gignès. On peut pas lui en vouloir à ce patient.
Mais oui, on peut pas revenir en arrière totalement et abandonner ces produits. Mais en effet, les deux grands dangers, c'est ce nouveau danger extraordinaire qui est le fentanyl à action rapide, hyper rapide. Et avec des façons de le dispenser par des pulvérisations nasales ou des espèces de sucettes. Alors là, il y a un effet addictif et on peut facilement tomber dans les dangers que le reportage a montré et montrera. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Et il y a un peu trop de libéralisation de ce produit et de mésusage. On pense que 50% de ces produits hyper utiles pour les patients qui ont des poussées douloureuses de cancer, ceux-là sont utilisés pour des non-patients cancéreux. Et là, c'est très très mauvais. Ça, c'est très mauvais. Il y a en plus 10 produits de façon différente, mais qui ont le même produit pharmacologique. Et on dirait que la publicité a augmenté encore l'utilisation de ces produits et le mésusage de ces produits qui sont 50 fois plus actifs que la morphine. Et là, surtout jamais en continu.
Docteur Carole Sereni, professeur François Chaste, quelles sont les règles fondamentales que l'on doit respecter si l'on est contraint de prendre un médicament à base d'opioïdes, en quelques mots?
Eh bien, d'abord, il faut distinguer ce que l'on appelle un patient naïf d'un patient qui a déjà pris un opioïde. Chez le patient naïf, il faut...
Naïf au sens médical.
Naïf, ça veut dire qu'il n'en a jamais pris. C'est-à-dire que son organisme n'a jamais été en contact avec ce médicament. Il faut démarrer par la dose la plus faible et envisager le traitement le plus court possible. Et cette règle doit être accompagnée d'une précaution particulière pour les opioïdes, c'est faire en sorte que le patient n'ait pas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique, sans quoi ces deux problèmes risquent de se cumuler avec la toxicité du médicament.
Docteur Sereni.
Alors l'autre problème, c'est de savoir si le patient va être à risque d'addiction et de limiter les risques d'addiction quand on utilise ce médicament à bon escient. Une des choses, c'est de tout de suite dire quelle va être la durée du traitement et quel est l'avenir du patient. C'est-à-dire, par exemple, qu'un patient qu'on met sous morphine, moi j'ai déjà vu des patients jeunes ayant des lombalgies mis sous morphine sans limite. Donc, est-ce qu'ils peuvent passer toute leur vie sous morphine? Ça, non, ça ne se discute pas. Donc, il faut tout de suite dire, il y a des règles, il y a un moment où il va falloir arrêter et essayer de trouver d'autres solutions pour ne pas souffrir. Parce que, évidemment, il ne faut pas laisser le patient souffrir, ça c'est capital. L'autre chose, c'est de savoir se méfier quand on est soi-même à risque d'addiction. Si vous êtes vous avez tendance à boire trop d'alcool, si vous fumez, si vous avez déjà pris des médicaments anxiolytiques, vous êtes à risque d'addiction.
Allez, il est temps de retrouver la chronique de notre médecin romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, pour vous, j'ai tricoté des morceaux d'histoire vraie afin de vous dresser le portrait de Madame Chang. Je me souviens plus quand elle a consulté la première fois au cabinet, mais elle avait mal au lombaire. Ça a commencé doucement après sa deuxième grossesse. Petit à petit, une pointe électrique en bas du dos qui descendait jusqu'au pied droit. Alors, seuls les médicaments à base de codéine l'a soulagée et elle est revenue plusieurs fois m'ont demandé pour être soulagée. Alors, je n'ai rien dit au début, elle était seule à la maison, à gérer les enfants, les courses, etc. Monsieur n'était pas là, d'ailleurs, il n'est jamais trop là pour elle. Et au bout de quelques temps, j'ai compris que son dos ne lui faisait plus si mal que ça, mais qu'elle était totalement et profondément dépendante aux médicaments opiacés. Alors, je l'ai laissé venir à moi, Madame Chang, et si je n'aime pas prescrire de la codéine à une personne que je soupçonne d'être addict, il faut parfois savoir adopter une posture conséquentialiste et prescrire ce qu'on n'aime pas, le temps d'obtenir la confiance du patient et de pouvoir générer une sorte de déclic chez lui. Et donc, voilà, je prescrivais sa codéine à Madame Chang en faisant mine de rien voir, je plaisantais avec elle, je l'amadouais un petit peu, et ce qu'il faut, quoi. Et un jour, j'ai mis les pieds dans le plat et j'ai prononcé les mots dépression, addiction, charge mentale, épuisement. Alors, elle a pleuré, elle a hoché la tête, elle a dit qu'elle ne s'était pas rendue compte, mais que j'avais peut-être raison, que, ben voilà, la codéine s'était venue peu à peu, elle ne savait plus ni comment, ni pourquoi, mais chaque fois qu'elle venait me voir, elle avait peur, mais une peur panique, que je refuse de lui en prescrire, et elle avait conscience que ça, ce n'était pas normal. Alors, on est tombés d'accord tous les deux qu'il fallait l'hospitaliser quelques jours pour l'aider à se débarrasser de son addiction. Elle hésitait car il fallait bien s'occuper des enfants, mais elle avait conscience que, ben, mieux valait les confier quelques jours à des proches et lui permettre de se sortir de ce cercle infernal dans lequel elle s'était enfermée. Et donc elle est revenue me voir la semaine dernière, elle était rayonnante, débarrassée de son addiction, parce que oui, il faut que les gens le sachent, mais se débarrasser d'une addiction aux antidouleurs, ça peut aller vite avec des équipes hospitalières compétentes. Alors vous allez me dire pourquoi je vous raconte ça, c'est justement parce que je veux dire aux personnes qui nous écoutent et qui se retrouveraient dans la situation de cette patiente, ne vous flagellez pas, vous êtes humain, vous faites ce que vous pouvez dans le respect de vous-même et vous pouvez vous en sortir, vous n'êtes pas tout seul. Allez parler à votre médecin, rien n'est irrémédiable et vous méritez mieux que ce fil à la patte.
Et vous pouvez réagir à la chronique de Baptiste Beaulieu sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. En quelques mots, mon cher Baptiste, la question Covid de la semaine concerne les enfants. Sont-ils des vecteurs de contamination ou non?
Oui, parce que le problème, c'est que, alors, une étude passionnante qui est parue fin juillet dans la prestigieuse revue qui s'appelle le JAMA, le Journal of the American Medical Association. Alors, cette étude, elle revient pas sur la dangerosité du virus chez les enfants. Ceci semble toujours aussi exemple de formes graves. Mais, après plusieurs études qui faisaient plus ou moins consensus, on était resté sur l'idée que les enfants étaient plus faiblement vecteurs du virus que les adultes, ce qui arrangeait tout le monde. Et l'étude du JAMA vient, jeter un pavé dans la mare. Elle est menée sur une centaine d'enfants de moins de 5 ans qui sont testés positifs et elles retrouvent dans leur narine des concentrations de SARS-CoV-2 jusqu'à 100 fois supérieures que la concentration retrouvée chez les adultes. Alors, l'étude n'en déduit pas pour autant qu'il serait plus contaminant que les autres et elle n'a été menée que sur une petite centaine de participants. Alors très très vite, ce qui... En fait, c'est trop peu pour conclure, sans 100 participants. Mais, la semaine dernière, l'organisme américain qui s'appelle le Centre pour le contrôle de la prévention des maladies, le CDC, a confirmé ses résultats, tout ça, en se gardant bien d'en tirer une conclusion quelconque. Les concentrations sont plus élevées chez les moins de 5 ans, c'est leur conclusion. Leur conclusion, c'est pas les moins de 5 ans sont des acteurs majeurs de la chaîne de transmission virale. Ben, du coup, Ali, personne ne sait vraiment.
Merci beaucoup Baptiste Beaulieu, on vous retrouve évidemment lundi prochain. Merci beaucoup docteur Carole Sereni d'être venue ce matin. Douleur chronique et opiacée est publiée aux éditions du Cerf. Merci beaucoup professeur François Chasse, vous reviendrez, vous êtes un habitué de l'émission. Les médicaments sans question, c'est publié chez Taillandier. Merci beaucoup docteur Patrick Gignès, nous avons reçu beaucoup de questions sur la fibromyalgie, je pense que je vais faire une émission sur la fibromyalgie. Cette bien saison. Sûr, et merci Alexandra Combes. Je recommande votre documentaire Antidouleur, potion ou poison diffusé demain dans l'émission Enquête de santé à 20h50 sur France 5. Dans un instant, l'intervention de Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la recherche médicale.
Les éclairer jusqu'à ce que le soleil tombe, lassé de nous réchauffer. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon qu'à des puces, c'est qu'elle a pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé, il s'est déplacé, quelques vertèbres. Où était l'ostéo, caché dans son dos? car c'est pas les autres, c'est ceux qui te font rêver et qui vendent leurs culottes pour un peu de télé. Et toute ma grande famille a le cœur tout chamboulé tant qu'il y a quelques partages et du vide à écouler. Ils iront sur la banquise passer quelques mois d'été, photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé quelques vertèbres. Oh, est-elle la stéo cachée dans son dos, attendant la fièvre. Mais le monde a changé.
Julien Doré, La Fièvre.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi sur France Inter.
Rebonjour Thierry Lhermitte.
Oui, rebonjour.
Ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, ambassadeur très investi. Tous les mois, vous visitez un laboratoire de recherche et nous sommes ravis de vous retrouver cette saison, tout au long de la saison. Alors ce mois-ci, vous êtes allé à la rencontre de l'équipe de Jean-Philippe Delis au CEA au CEA de Fontenay-aux-Roses. Il dirige le service d'études des prions et infections atypiques. Cette équipe et leurs collaborateurs, des biologistes et des physiciens, ont développé des organoïdes cérébraux, des sortes de mini-cerveaux qui miment des cerveaux humains atteints de la maladie d'Alzheimer. À l'aide de ce modèle, ils veulent comprendre les mécanismes précoces de la pathologie. Le projet dont vous allez nous parler est soutenu donc par la Fondation pour la Recherche Médicale. Alors, il y a une chose qui me surprend, l'équipe de Jean-Philippe Desly est spécialisée dans les prions et les infections atypiques. Et là, vous allez nous parler de la maladie d'Alzheimer. Ouais. Quel est le rapport ?
Ben parce que le lien entre la maladie d'Alzheimer et le prion, c'est relativement récent. Pour comprendre le parallèle, il faut d'abord savoir ce que sont les prions. Les prions sont issus de protéines normales qui s'agrègent sous une forme anormale et qui se propagent alors dans les tissus comme une infection. Et au contact des prions, les protéines normales changent de forme et deviennent toxiques à leur tour. Et c'est de cette manière que se développent les maladies dites à prions, comme les maladies de la vache folle ou de Creutzfeldt-Jakob. Depuis quelques années, la communauté scientifique s'accorde pour dire que ce mécanisme serait assez répandu dans le monde du vivant.
Et c'est le cas pour la maladie d'Alzheimer.
Oui, les chercheurs ont récemment découvert que le mécanisme de progression de la maladie d'Alzheimer est similaire à celui d'une maladie à prions. Mais attention, la maladie d'Alzheimer, c'est pas une maladie à prions. On parle là de ressemblance mécanique et pas du tout d'infection. Au cours d'Alzheimer, les neurones meurent à cause de deux protéines, la bêta-amyloïde et la protéine tau. Et on ne sait pas pourquoi, mais certaines de ces protéines se retrouvent dans le cerveau sous une forme anormale et toxique. Elles s'accumulent alors sous forme d'agrégats et provoquent la mort des neurones. Et on sait aujourd'hui qu'au contact des protéines anormales, les protéines saines changent de forme et deviennent toxiques à leur tour, comme dans les maladies à prions. Donc ce phénomène conduit à la mort des neurones de proche en proche.
Alors les agrégats de protéines tau et de peptides bêta-amyloïdes apparaîtraient 10 à 30 ans avant les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Pour les observer, les chercheurs ont développé des mini-cerveaux à partir de cellules prélevées chez des individus sains et des patients atteints de formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi des mini-cerveaux et comment sont-ils produits ?
Parce qu'il est impossible d'observer la formation et la progression des agrégats toxiques dans le cerveau avec des techniques d'analyse classiques. Parce que les cellules cultivées dans les boîtes de culture se développent en deux dimensions et n'ont pas suffisamment d'échanges entre elles, et les modèles animaux sont trop éloignés de la maladie humaine. D'où cette idée incroyable de produire des mini-cerveaux. Alors, le matériel de base, ce sont simplement des cellules sanguines ou de peau prélevées chez les patients atteints d'Alzheimer. Ces cellules adultes sont reprogrammées et ramenées à un état de cellules souches, c'est-à-dire des cellules jeunes et indifférenciées. Et pour les faire s'agréger entre elles, les chercheurs utilisent la technique de la goutte pendante. Alors c'est assez dingue dans un univers technologique, un truc aussi astucieux. Ils déposent sur le couvercle d'une boîte des gouttes qui contiennent du milieu de culture et des cellules souches, et puis ils retournent la boîte. Alors résultat, la goutte ne tombe pas et reste pendue à la surface du couvercle. Et comme ces cellules sont piégées dans la goutte, elles vont s'agréger entre elles en trois dimensions, donc en volume. Ensuite, ce qu'on a obtenu est placé dans une solution remplie de nutriments et de facteurs de croissance capables de transformer ces cellules en cellules nerveuses. Et au bout de 60 jours, on obtient une sorte de mini-cerveau jeune de 2 à 3 mm de diamètre. Et les chercheurs utilisent différentes méthodes pour les forcer à vieillir de manière accélérée afin d'obtenir en quelques semaines l'effet d'une dizaine d'années et de se rapprocher des conditions naturelles de la maladie d'Alzheimer.
Alors Thierry, vous parlez de mini-cerveaux. On obtient vraiment des cerveaux miniatures ?
Non, pas vraiment. Non. En fait, ce sont des structures de cellules nerveuses très immatures et hétérogènes. Ces mini-cerveaux sont composés de neurones et de cellules nourricières dans des proportions variables. Aucun ne se ressemble, il leur manque en plus certaines cellules, les cellules immunitaires par exemple, mais ils sont fonctionnels. Les cellules expriment la protéine tau ainsi que la bêta-amyloïde, et dans certaines circonstances, ces protéines peuvent même s'agréger, comme dans la maladie d'Alzheimer. Et on sait aussi que les neurones communiquent entre eux. Quand on stimule le mini-cerveau, certains neurones libèrent des neurotransmetteurs.
Alors concrètement, qu'est-ce que les chercheurs vont étudier avec ces mini-cerveaux ?
Alors, le programme de recherche, il combine plusieurs techniques originales pour suivre au cours du temps et avec une précision spatiale inégalée les modifications fonctionnelles du cerveau au tout début de la maladie. Il y a trois équipes composées de biologistes et de physiciens, dont celle de Jean-Philippe Desly. La première équipe étudie l'expression des gènes. La seconde fait de l'imagerie ultra sophistiquée pour analyser la composition du mini-cerveau, pour visualiser ses cellules et l'évolution des agrégats toxiques. Et la troisième utilise l'électrophysiologie pour étudier la communication entre les neurones. Ces analyses seront menées à différents stades du vieillissement des mini-cerveaux et elles permettront de révéler de nouveaux mécanismes fondamentaux à l'origine de la maladie d'Alzheimer et de mettre en lumière l'évolution de leur structure dans le temps.
C'est absolument passionnant, voilà. Thierry Lhermitte. Comment soutenir la recherche contre la maladie d'Alzheimer ?
Eh ben, en ce moment, c'est très facile. Vous pouvez évidemment envoyer par FRM un don. Mais sinon, avec votre téléphone, vous pouvez faire un don de 20 euros à la FRM. Il vous suffit d'envoyer le mot « souvenir » par SMS au 92 300. Et 20 euros seront prélevés sur votre facture téléphonique.
Voilà. Et on peut également se rendre sur le site frm.org. Merci beaucoup Thierry Lhermitte. On se retrouve le mois prochain. Ouais. Allez, demain, on va s'intéresser aux cauchemars. Comment mieux vivre avec eux. Racontez-nous vos pires cauchemars dès maintenant sur l'appli France Inter. Et dès 9h au 01 45 24 7000. Dans un instant, Nagui, qui soutient également la Fondation pour la Recherche Médicale, consacrera son émission à la maladie d'Alzheimer en recevant notamment le professeur Bruno Dubois.